Méga combi
présente.
Alors on va passer au dressage de la salade de choux.
Les frissons du quotidien.
Mec, joli plat. Plat de grand-mère hein, avec des petits fruits dessinés dessus.
11h du mat.
Là on met la salade verte.
Collapse au boulot.
Au fond du plat.
En cuisine.
Donc on va leur laisser quand même le choix, ces petits vieux. On va leur faire une sauce spéciale grecque. Feta. Miel, huile d'olive et puis une sauce vinaigrette plus basique. On peut appeler savoyarde. Ici, on est en Savoie, donc on appelle un peu tout ce qu'on fait savoyard. De toute façon, les petits vieux viennent de Normandie. Savoie, ils y connaissent rien, donc on peut tout se permettre. Du moment qu'il y a de la crème fraîche, de toute façon, ils sont contents. La crème fraîche, du beurre. Je fais tout passer là. On va leur mettre la crème fraîche dans la salade de choux, ils verraient que du feu. Si tu veux une bonne salade de choux, ne râpe pas ton chou. Ça te permettra de draguer un peu. Tu verras. Les gens sont très sensibles à la technique de découpe. Regarde. Tu démarres doucement comme ça et là, tchac 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 tchac. Et là, tu vois, généralement, les regards se tendent un peu vers toi et le désir augmente à ce moment-là. Au moment du. Ouais. Ah, ouais. Le désir augmente aussi à peu près en même temps que le rythme du couteau en fait. Hein. C'est très très érotique comme geste. Si, je l'ai testé, hein. J'ai testé la chose. Bon, ça marche pas à tous les coups quand même. Hein, parfois, ça fait une petite indifférence. Enfin, ça se tente. Et puis évidemment, ça donne un résultat très artisanal hein, par rapport au chou râpé uniforme, au chou râpé uniforme, au chou râpé presque fasciste, hein, tout pareil. Alors que là, on a un chou coupé au couteau qui est vraiment pas mal.
Les frissons du quotidien.
Un peu de terre de notre pays.
Ah, j'ai trop de choux là.
J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais, tu me l'as raconté. Mais dis encore, qu'as-tu rapporté? Les vaches blanches chez moi.
Alors voilà, on va dissoudre le mièvre dans le balsamique. C'était de la moutarde. On obtient une sorte de caramel. Et de là, j'adjoins
les frissons du quotidien.
Ouais, j'adjoins, ouais. Comme ça qu'on dit, dans le métier. Et l'huile d'olive. C'est bon. Tu veux goûter, Clément?
Les frissons du quotidien.
Moi j'aime pas. En fait, j'aime pas la sauce au miel.
Ah si.
Prime time.
Tous les mercredis à 18h.
Les gars combi, prime team, prime time.
C'est le prime time de Méga Combi?
Non, je crois que c'est la prime team de Méga Combi, non?
De Méga Combi.
À 18h ce mercredi.
Je mange plus de pêche, c'est fini. Je n'y arrive plus. Nectarine, terminé. J'arrive à mordre dedans et fini. Une espèce d'allergie. Je m'appelle Hervé Lançon. J'étais arboriculteur. On faisait surtout de la pêche et pêche nectarine.
Donc des fruits, les fruits d'été ici dans le coin, on est dans le sud de la Drôme ici.
On est dans le sud de la Drôme, oui. Donc ça faisait oui, une trentaine d'années qu'on était dans la pêche. Et, donc je revendais l'exportation, grande et moyenne surface, et je pense un peu le marché local, mais très peu quoi.
Vous arriviez à tirer combien
Au prix du kilo, je dépassais pas 90 centimes. la dernière année, 70 centimes de moyenne. Et donc, moi, j'ai choisi d'arrêter la société parce que, oui, il y avait pratiquement 200 000 euros de déficit, donc c'était énorme, quoi. Mais c'est vrai que jusqu'à la fin, moi, j'avais mes prix fin septembre. Jusqu'à la fin septembre, on pensait encore pouvoir passer, quoi. Parce qu'en fait, on y croit dur comme fer jusqu'au bout, quoi. Et on travaille dur aussi. C'est 10 heures par jour, tous les jours. On travaille dur et pour arriver à rien, quoi. Pour tout perdre. Même ce qu'on a investi avant. C'est vraiment des situations qui sont très, très douloureuses pour l'agriculteur. Et je pense que même des situations familiales douloureuses, normalement, ça ne devrait pas exister. On devrait pouvoir se nourrir de nos terres.
Comme Hervé Lançon, chaque année, ils disparaissent, les arboriculteurs. Et c'est vrai pour les paysans, en général. Au mieux, ils mettent la clé sous la porte, au pire, ils se suicident. Un paysan se suicide tous les jours, en France. C'est beaucoup plus qu'à France Télécom ou à La Poste. Gagner sa vie en produisant des fruits, des légumes, du lait, c'est de plus en plus difficile en France. Alors on nous dit souvent que c'est à cause de la longueur des circuits. Mais c'est pas toujours vrai. On va le voir aujourd'hui en suivant un circuit assez court, le circuit de Jojo. Jojo, c'est qui ? C'est un abricot. Il a poussé sur un arbre du nord de la Drôme à moins de 100 km de Lyon et il sera mangé par un client d'un supermarché à Lyon. On suit donc la route de Jojo ce soir dans la méga combi, une nouvelle fois, c'est une rediffusion. Et la route de Jojo commence un matin de l'été 2010 à côté de Tain-l'Hermitage lors de la récolte.
Méga combi.
Les jeunes là, on n'a pas hésité tout le temps, hein.
Documentaire.
Deux parents. Il y en a trois rangs, allez, partout. Allez, on se presse.
Ben moi je suis Guy Perret, j'ai 60 ans, je suis proche de la retraite. Je suis fils de paysan, né en Ardèche. Et puis en fait j'avais envie de devenir paysan. Je me suis installé en 1979. Je me suis trouvé dans une zone où il y avait des abricots. J'ai trouvé des terres en location des abricotiers. Je suis devenu arboriculteur éleveur depuis cette époque-là. Donc on a une dizaine d'hectares d'abricotiers en production. C'est les bergerons essentiellement dans la région comme tous les autres producteurs.
Est-ce que ça a changé donc depuis 79, ça fait 30 ans, la production d'abricots
c'est changé en plusieurs choses, oui. Ça s'est beaucoup développé dans notre région. Il y a beaucoup d'exploitations qui ont disparu aussi. Et maintenant, c'est vrai que les gens ont plutôt des plus grosses productions. Ce qui a changé aussi beaucoup, c'est les prix. Depuis l'époque, disons qu'en fait... On gagnait bien sa vie avec peu de surface et maintenant c'est vrai qu'on peut gagner sa vie mais aussi on peut perdre de l'argent et ça c'est l'aspect très aléatoire de la production d'abricots.
Celui-là t'aurais effectivement pu le laisser mais si tu le prends c'est pas grave.
Ouais,
tu
vois, ça
tu les tâtes et puis tu les tires.
Ouais.
Et il faut, si imaginons t'arraches un peu de verdure avec, genre il faut que t'enlèves la tige.
Non, ils sont tous verts ceux que je prends en fait.
Ou alors aujourd'hui on est en train de récolter ces abricots, il y a plein de saisonniers qui sont là. Avant la récolte, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail ?
Ben, le travail, un des travaux essentiels donc en dehors de la récolte, c'est la taille. Et puis tout le long de l'année, on va avoir des traitements pour se protéger notamment des maladies, notamment du monilia, et puis désherbage, broyage donc de l'herbe qui est sur le rang, l'arrosage, enfin des choses comme ça. Mais c'est vrai que la tâche essentielle, c'est quand même la taille, puisqu'on passe à peu près 80 heures à l'hectare de taille, donc 80 heures par 10 hectares, vous voyez, c'est à peu près 700-800 heures de taille qu'on doit passer dans l'hiver, quoi. Donc c'est quand même un travail très important.
Alors un bon abricot, c'est un abricot qui a le teint jaune comme ça, et qui est tacheté de rouge. Tu vois, il donne envie de croquer dedans. Je te ferai pas croquer parce que justement, ceux-ci, ils sont bons à prendre, mais pas encore bons à manger. Ils vont mûrir après, quoi.
Ils sont durs encore un peu.
Voilà, c'est ça.
C'est vrai que la coopérative, si on livre trop mûr, on risque d'avoir des lots déclassés, donc on ne peut pas se permettre trop ce genre d'excès, quoi. Donc on peut ramasser très vert, effectivement, ou moyennement mûr, et la coopérative en sera toujours bien classée. Ça, c'est vrai qu'il peut y avoir des attitudes de producteurs, mais à un moment donné, quand la sanction tombe, c'est douloureux, donc on ne peut pas se permettre, à un moment donné, on est bien obligé de ramasser... pour être stocké éventuellement, notamment 15 jours, 3 semaines en coopérative.
Quand vous parlez de sanctions, c'est quoi la sanction ?
La sanction, c'est 20% ou 30% de moins sur le prix, quoi. Voilà, donc, on a vite compris.
Alors, un abricot comme ça, si on en prend 1 kilo, ça vous coûte combien, vous, à produire ?
Cette année, on va considérer, par exemple, que notre coût de production va être autour de 70-80 centimes au kilo. On pourrait dire qu'il y aura un tiers pour la récolte. Moi, je dis qu'il faut à peu près un tiers pour payer le travail du paysan, y compris donc la taille l'hiver. Et puis puis après, il y a un autre tiers de charges, de mécanisation, de produits de traitement, d'engrais, de frais d'irrigation, des choses comme ça.
L'année dernière, vous les avez vendus combien du coup ?
À la coopérative, on a environ de 45 centimes.
Mais alors du coup, l'année dernière, ça vous a coûté extrêmement cher de produire des abricots ?
Ça nous a en tout cas pas permis de nous rémunérer. Voilà, j'ai travaillé pour rien, on va dire. On a emprunté 30 000 euros sur 5 ans, donc c'est un emprunt qui nous a permis simplement de combler le manque de revenus de l'année dernière. Donc si manque de revenus, ça veut dire la trésorerie qu'on érode.
Comment ça se fait que vous ayez vendu ces abricots si peu chers ?
Si peu chers, ben, moi j'ai du mal à avoir des explications. Il est vrai qu'il y a quand même une grosse production française, et je pense quand même qu'il y a une concurrence un peu qui se fait entre les régions. Alors c'est vrai que dès qu'il y a aussi un léger excédent au niveau du marché, il y a les cours qui s'effondrent. Enfin, bon, ben on sait bien que malgré tout, les grandes surfaces n'y sont pas pour rien, pour accentuer le phénomène de baisse, quoi. Parce qu'il y a peu d'acheteurs, donc on sait bien qu'ils ont un pouvoir énorme sur les prix.
Méga Combi, reportage.
Ça marche les ramasseuses ?
Ouais, ça marche bien.
Ça va ? Il faut bien faire les pointes de jambes et l'escabeau là ?
Ouais.
Ces abricots qu'on est en train de ramasser, on sait que vous allez savoir le prix auquel vous allez les vendre.
Le prix, on va l'avoir au mois d'octobre. On a des tendances. Bon, effectivement, on a des collègues, on a quelques-uns qui vont me dire, bon ben voilà, je commercialise, ça se vend à peu près ces prix-là. Donc on peut se faire une idée de son prix, mais c'est un peu difficile. On n'a que des espoirs. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on ne puisse pas vendre à perte. Les intermédiaires garantissent bien leur marge, ils ne travaillent jamais à perte, tous ceux qui travaillent après nous. Les 20-30 centimes qui nous a manqué ont peu d'influence sur le prix final, puisque tous les autres intermédiaires ont gardé leur marge. Donc qu'on vende à perte ou qu'on vende en gagnant à peu près correctement notre vie, le prix au consommateur est peu différent. Alors c'est pour ça qu'en fait, il suffirait qu'on nous garantisse notre prix au départ pour que ça fonctionne à peu près. Et pour nous, ça, ce n'est pas dans l'air du temps.
Non, je dis, tu veux dire un mot, toi, un petit peu ? T'as une saisonnière particulière, t'es la fille du producteur ?
Exactement, la fille du patron.
T'es saisonnière ou tu travailles à l'année sur l'exploitation ?
Non, moi je suis que saisonnière, je suis étudiante encore.
Tu fais des études de quoi ?
Psychomotricité.
T'avais pas envie de reprendre l'exploitation ?
Non, moi j'avais pas trop le goût. Non, pas le courage en fait. L'été c'est bien, mais l'hiver c'est un peu hard, il y a la taille, il y a pas mal de choses à faire. Dehors, des travaux des champs, donc c'est vrai que c'est quand même super physique et c'est dur. Moi en tant que fille de paysan aussi, tu vois, je trouve ça. Quand les parents ont été pas mal pris, peut-être que t'as pas envie de refaire les mêmes choses, quoi. Bon, c'est quand même une vie qui est bien remplie, quoi. Mais c'est chouette, hein, après.
Combien vous arrivez à vous faire de revenus par mois ?
Difficile. En fait, on essaie de se fixer des objectifs. Après, on les tient ou on ne les tient pas, c'est ça. Et donc là, effectivement, on aimerait bien pouvoir se prélever. C'est ce qu'on a essayé de faire, puisqu'on a une fille qui est encore étudiante, de 1500 à 2000 euros par mois, quoi.
Donc 1500, 2000 euros par mois, sachant que vous avez 60 ans.
C'est pas énorme, mais c'est au prix aussi d'un endettement, quoi. Voilà, bon, pour l'instant, on roule avec une vieille voiture. On aurait bien aimé voyager aussi. Voilà, j'espère que cette année, ça pourra se faire. On espère toujours. Bon, des fois, on est déçus, des fois, on réalise quelques petits rêves en passant. J'ai 60 ans, donc je vais bien continuer quelques temps, mais j'aimerais bien quand même travailler moins, c'est légitime. D'ailleurs, je fatigue un peu aussi. Effectivement, j'ai peut-être fait mes 70 heures par semaine ces derniers mois. Bon, mon objectif quand même, c'est de moins travailler.
Vous allez arriver à avoir une retraite ?
Alors la retraite, bon ben j'ai calculé à peu près, on va être à 900 euros par mois environ. Bon, et j'ai 150 euros qui me viennent de 6 ans de salarié. C'est vrai que les retraites paysannes, c'est quand même un peu calamiteux.
Pour expliquer la filière, donc là vous êtes en train de ramasser les abricots, vous allez les emmener à une coopérative, c'est ça ?
Voilà, une coopérative fruitière, donc effectivement, conditionner, donc calibrer, faire un tri, et puis revendre donc cette marchandise, donc une partie effectivement à l'exportation, une partie en GMS, comme grande moyenne surface.
Stop ! Laissez votre bac sur votre escabeau, vous virez tout à l'heure. À côté de votre escabeau. Vous arrêtez, donc c'est la pause.
Je tiens dans la main Jojo l'abricot. Jojo l'abricot avec qui on va passer un petit moment. Il a une couleur orange, rosée. Il est plutôt joli. Il a l'air d'avoir la pêche. Il a passé toute la saison cajolé par son producteur. Il vient d'être arraché de son arbre par un des saisonniers. Je le pose dans une cagette avec tous
ses cousins, abricots, cagettes posées sur une palette dans la remorque du tracteur qui part vers la coopérative.
Une heure et demie sera la coopérative.
C'est où, c'est à combien de kilomètres?
15 km environ, donc il faut traverser tard et tournant l'armée. Et tournant.
En tracteur.
En tracteur, voilà.
Bonjour, nous sommes les pêches et les abricots de Rhône-Alpes.
Cueillis à maturité, riches en goût, nous ensoleillons la fin des repas et des petits encas.
C'est le moment de nous déguster, sans modération.
Les fruits de Rhône-Alpes, à déguster dès aujourd'hui.
Méga Combi, reportage.
Bonjour, très heureux. Olivier. C'est bon, on est sorti?
Ouais, ça va, ouais. Matinée récolte.
C'est cela, là?
Ouais, c'est cela, ouais.
Ah, c'est bien joué.
C'est de la bonne canne?
C'est pas bien gros. Il faut voir sur l'ensemble après de la campagne, mais c'est vrai que c'est, ça paraît un peu petit en termes de calibre.
Alors du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe, les différentes étapes de l'arrivée de Jojo?
Donc ici, on est sur ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire que les producteurs amènent la marchandise, elle est pesée, elle est contrôlée, agréée. Donc on y met des numéros de lot en fonction de la parcelle, en fonction de la variété, en fonction de la date.
Par exemple, la dame, là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec une sorte de...
Là, elle est en train de faire des prélèvements. Elle va extraire du jus pour voir le taux de sucre et d'acidité. Elle va mesurer la fermeté pour voir si l'abricot est suffisamment correct pour la consommation.
C'est ça qui va aussi définir le temps de stockage ou...
Tout à fait, voilà. Ça va définir le temps de stockage, ça va définir l'orientation, si c'est des clients sur le marché français, si c'est des clients sur l'export, voire même la grande exportation, puisqu'on peut expédier de l'abricot jusqu'en Russie, par exemple, qui nécessite 5 jours de voyage. Donc c'est pas les mêmes caractères qu'un marché français qui peut être à proximité.
Donc là, on arrive dans un grand hangar où il y a toujours une base de fenouil, des palettes et des machines aussi. Donc c'est ici qu'on va mesurer le calibre.
On va faire un tri en fonction du calibre. Donc les abricots qu'on a vus, après stockage et après refroidissement, hein, puisqu'il faut qu'on les expédie froids, donc on les refroidit dans tous les cas, parce qu'on rentre des abricots à 30 degrés, vous avez vu la chaleur qu'il fait aujourd'hui. Donc on va passer dans les frigos spéciaux de l'air pulsé pour les refroidir à 3 degrés.
Donc ça en une nuit.
Voilà, une nuit, comme ça, ça se passe bien. Ensuite, on va les calibrer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va les trier en fonction de leur taille. Donc il y a plusieurs tailles, donc ce qu'on appelle nous dans notre jargon le A, le 2A et le 3A. Il y a les petits, les moyens et les gros. Donc ça, c'est fait de manière automatique par une machine. Donc ça, c'est l'opération de tri. C'est-à-dire qu'il y a 8 personnes qui vont passer tous les abricots, un par un, et qui vont écarter tous les abricots abîmés. Voilà, là, c'est un contrôle que visuel. Hein. Donc on va éliminer l'abricot taché, qui a un trou fait par des insectes, qui est éclaté, boisé, ce qu'on appelle, c'est-à-dire frotté par des feuilles.
Et les autres, ceux qui sont gardés,
donc vont être maintenant pesés, un par un, et le poids de chaque abricot donnera ce qu'on appelle le calibre. On peut le mesurer soit par la taille, soit par le poids. Voilà, chaque abricot maintenant se retrouve individualisé sur un petit système de pesons, un par un, et la machine enregistre de manière électronique et après va les emballer dans des cartons 5 kg en fonction de leur poids. Les petits calibres vont aller par exemple dans des barquettes. On va avoir des abricots après pour la consommation du frais sur des emballages 5 kg avec notre marque, notre publicité. Voilà, et après c'est ce qu'on appelle palettisé pour être expédié après dans les plateformes ou directement dans les magasins. Ça dépendra un petit peu de nos clients.
Donc c'est une seule et même machine, hein. J'ai l'impression qu'elle fait toute la longueur du hangar.
Ouais, elle fait 65 mètres de long.
C'est impressionnant.
Ben, on a besoin d'avoir du matériel très performant sur une courte période. Ça, c'est un petit peu la difficulté de notre métier. C'est-à-dire que nous, on va travailler sur une campagne d'abricots sur 2 mois. Et puis après, c'est du matériel qui ne travaille plus pendant 10 mois.
Alors c'est un peu l'abricot à la chaîne.
Ouais.
Donc si on reprend mon abricot, que j'ai appelé Jojo l'abricot, qui venait du producteur, il a quand même passé une nuit pour être
rafraîchi. C'est le minimum. Voilà. Le minimum, c'est de le refroidir, de le passer dans de bonnes conditions, de 30 degrés à 3 degrés.
Donc on imagine une nuit, et ensuite toute cette machine-là qui mesure 60 mètres, donc calibrage, pesage, et puis
conditionnement.
Tout ça prend combien de temps?
Ça prend quelques minutes, là. Je veux dire, il y a à peine un quart d'heure entre
entre le début et la fin du travail et c'est remis en chambre froide pour l'expédition. Donc là, en fonction des critères qu'on a définis.
Donc là, on est dans la chambre froide. Là, les abricots restent combien de temps à peu près ?
Alors, c'est quelques heures, le temps que les camions arrivent. Donc entre, il y a des camions qui sont prêts à charger.
Donc il n'y a pas de stockage long ici ?
Non, enfin après...
Le maximum, ça peut être...
Maximum sur de l'abricot, on n'essaye pas de dépasser les 4-5 jours. Ça peut arriver avec les week-ends, des choses comme ça, mais sinon on essaye de travailler en direct. Oui.
Mais il part quand lui alors ?
Ça va partir dans la journée.
Dans la journée.
Oui, ça part aujourd'hui.
Alors voilà, notre abricot Jojo a été calibré, pesé, classé. Il est passé sur multiples tapis roulants et le voici palettisé dans une chambre froide, prêt à sortir de sa coopérative pour aller vers des revendeurs. Alors les coopératives étaient à la base faites par et pour les paysans, afin qu'ils mutualisent leurs moyens. Il y avait en gros des coopératives dans chaque village, mais au fil du temps, elles ont fusionné entre elles et sont devenues des grosses structures qui fonctionnent comme des entreprises. Les paysans sont devenus ainsi des petits coopérants et ont donc perdu leur pouvoir au profit de directeurs commerciaux comme Christophe Claude, le directeur de Rodacop à Tournon, qui nous a fait la visite. C'était en 2010 qu'on a fait ce reportage et qui, lui, est pas du tout issu du monde agricole. Rodacop, c'est donc une boîte qui gère 700 producteurs, qui fournissent 20 000 tonnes d'abricots chaque saison et qui fait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Donc, notre abricot Jojo est désormais perdu dans cette masse impressionnante de bergerons, mais on va quand même essayer de le suivre, Jojo, de sa coopérative ardéchoise jusqu'à l'étalage du supermarché. Ça sera la suite du reportage juste après le journal dans la méga combi sur Radio Canu.
Alors, pendant qu'on est à côté de Rodacop, on va aller à Carrefour, il y a un Carrefour juste à côté. Bonjour, excusez-moi, je suis en train de rencontrer le chef de rayon fruits et légumes, c'est possible.
Il n'est pas là.
Il n'est pas là aujourd'hui.
Pourquoi ?
En fait, je suis journaliste et je fais un reportage sur la filière agricole et j'essaie de savoir, comprendre comment les fruits arrivent ici.
Bah, nous, ils arrivent par la centrale, quoi.
La centrale d'achat à Carrefour.
On ne peut pas prendre en direct, on peut... Par exemple, il y a les abricots, on reçoit les abricots qui sont emballés à Tain et ils vont à la centrale à Salon et ils reviennent ici, ceux de Tain.
Ils vont à Salon de Provence.
Ouais.
Ils font, ouais. Parce qu'effectivement, quand on voit les prix, le producteur, l'abricot, il le vend à 50 centimes, 100 kilos, quoi.
Ouais.
Ça arrive ici à 4 euros, quoi.
Non, mais nous, on pourrait l'avoir moins cher, quoi, mais on peut pas passer en direct, donc.
Voilà. Bon, je vous laisse travailler.
Méga Combi, reportage.
À suivre. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop at the for a special offer, guaranteed personality. I wasn't born so much as I fell out. Nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburb, over which I never could see. I heard the people who live on the ceiling scream and fight with scarily. Hearing that noise was my first ever feeling. That's how it's been in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons, packets of tea. I've got my giant hit discotheque album. I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the walls. Make long distance calls and the silence makes me lonely. I'm lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality.
Non, non, vous n'êtes pas perdu dans un supermarché à la recherche d'un abricot qui s'appellerait Jojo. Vous êtes bien sur Radio Canu et il est presque 18h30. Salam El Khoury.
Salam Combi. Tout de suite les nouvelles de la semaine agroalimentaire.
un ingénieur de chez Nutella, toujours en garde à vue après la découverte de morceaux d'écureuil dans plusieurs pots de 750 centilitres.
Oui, l'enquête a prouvé qu'il s'agissait d'un cas isolé, certainement un écureuil qui sautillait là par hasard et qui est tombé par inadvertance dans le pot de Nutella. Mais la surprise fut quand même brutale pour le petit Donovan, traumatisé après avoir étalé des yeux d'écureuil sur sa tartine. La famille demande évidemment réparation, tout comme on s'en souvient, cette famille du nord de la France, intoxiquée au dauphin la semaine dernière, après avoir consommé une plaquette de chocolat blanc.
Autre scandale alimentaire, les tranches de saumon de la marque Jumpy, retirées ce week-end de tous les circuits de distribution, étaient en fait des tranches de phoque aromatisées et colorées en orange à la va-vite.
Alors au premier abord, pas de danger pour la santé humaine, la viande de phoque ne tue pas. Cependant à long terme, elle cause une accoutumance et donc un manque en cas d'arrêt brutal. Alors si vous avez consommé du phoque récemment, consultez rapidement votre médecin.
Et puis l'information, c'est aussi démentir des rumeurs.
Non, il n'y a pas de verre pilé dans le paquet de sucre glace de la marque Candy, ou alors en quantité infime. Et non, il n'y a pas de lame de rasoir cachée dans les Pimm's framboises de la marque Lu. Des rumeurs qui font beaucoup de mal aux entreprises.
Manger 5 patates ou concombres par jour.
Ce sont les nouvelles recommandations du ministère de la Santé et de l'Économie solidaire, une mesure qui vise à modifier nos habitudes de consommation en période de crise. Manger moins pour payer moins et vivre mieux. La campagne est également associée à des clips anti-tomates, trop chers, peu nutritives, des clips jugés agressifs par plusieurs associations de défense des fruits et légumes.
Vivre comme un chasseur-cueilleur de la préhistoire, c'est possible.
Et oui, c'est ce que propose l'association Retour aux Sources. Alors, il existe des séjours de 2-3 semaines, hébergement en caverne, demi-pension, chasse avec guide chasseur agréé. Mais le midi, il faut souvent se débrouiller et au début, ce n'est pas facile. Et puis, au final, on s'y fait.
Des séjours faits pour ceux qui souhaitent partager des moments autour d'un feu de camp, éloigner les loups avec une torche et apprendre à bien choisir les baies à consommer. Des savoir-faire qui feront la différence quand les hypermarchés disparaîtront. Échéance prévue à quelques décennies. Et là, on verra qui c'est les warriors.
C'est officiel et c'est une promesse du candidat François Hollande qui est enfin réalisée.
Et oui, un décret ministériel interdit à partir de demain les œufs durs épinards dans toutes les cantines scolaires de France. Des scènes de liesse ont eu lieu devant plusieurs cantines où on pouvait voir des enfants brandir des panneaux « Plus jamais ça » ou encore « Pas dans mon assiette ». C'est une belle victoire selon les organisateurs de la manifestation qui rappellent tout de même qu'on continue encore aujourd'hui à servir des endives au jambon dans nos cantines. Le combat continue.
Le plastique, on en trouve vraiment de partout.
En effet, cette semaine, la liste des aliments contaminés au plastique à plus de 30% est parue sur le site de l'Agence pour la santé alimentaire, révélant des taux très élevés dans le nougat de Montélimar, mais aussi dans le tofu et la mozzarella. Immédiatement retirés du marché, les produits concernés commencent à être incinérés. Et c'est vrai que le nougat fume noir, c'est très inquiétant.
Enfin, il nous a quittés.
Oui, Romain Galette ne mangeait pas de ce pain-là, mais comme il n'y avait rien d'autre à manger, il est mort de faim ce matin. Un avertissement pour tous ceux qui oublient que le pain, si on n'en mange pas un jour, il n'y en aura plus.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Même si vous avez très faim, ne ramassez pas les feuilles tombées des arbres pour les manger.
Jusqu'à 19h.
Mégacombi.
Mégacombi.
Mégacombi Prime Time.
Le radiozine du mercredi sur Canu.
Je m'appelle Hervé Lançon, j'étais arboriculteur, on faisait surtout de la pêche et pêche nectarine. Et donc moi j'ai choisi d'arrêter la société parce que oui, il y avait pratiquement 200 000 euros de déficit, donc c'était énorme.
Alors un abricot, un bon abricot, c'est un abricot qui a le teint jaune comme ça et qui est tacheté de rouge. Je te ferai pas croquer parce que justement, ceux-ci ils sont bons à prendre mais pas encore bons à manger, ils vont mûrir après.
Quoi. Cette année, on va considérer par exemple que notre coût de production va être autour de 70-80 centimes au kilo.
L'année dernière, vous les avez vendus combien du coup ?
À la coopérative, on a environ de 45 centimes.
Alors du coup, l'année dernière, ça vous a coûté extrêmement cher de produire des abricots ?
Ça nous a en tout cas pas permis de nous rémunérer. Voilà, j'ai travaillé pour rien.
Donc ici, on est sur ce qu'on appelle la réception, c'est-à-dire que les producteurs amènent la marchandise, elle est pesée,
elle est contrôlée, agréée. Donc on y met des numéros de lot en fonction de la parcelle, en fonction de la variété, en fonction de la date.
Donc c'est une seule et même machine, hein. J'ai l'impression que ça fait toute la longueur du hangar.
Ouais, elle fait 65 mètres de long.
Alors c'est un peu l'abricot à la chaîne.
Ouais.
C'est l'histoire de Jojo et c'est la route de Jojo qu'on suit ce soir dans la méga combi. Jojo est un abricot bergeron. Il a été cueilli en 2010, date de ce reportage, sur son arbre dromois à Tain-l'Hermitage chez Guy Perret, producteur qui avait perdu l'année d'avant, en 2009, 30 000 euros durant la saison. Guy Perret récolte ses abricots et les achemine jusqu'à la coopérative où ils deviennent des marchandises qui déambulent sur des tapis roulants et autres machines industrielles qui vont les peser, les calibrer, les empaqueter, les palettiser avant qu'ils ne reprennent leur route en direction des supermarchés de l'Europe entière. On a entendu ça tout à l'heure. Mais l'abricot qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Jojo. Jojo, lui, va aller vers des supermarchés lyonnais et on va essayer tant bien que mal de le suivre jusqu'au consommateur pour comprendre pourquoi le paysan qui vend son kilo d'abricots 45 centimes ne rentre pas dans ses frais alors que dans les supermarchés, Jojo a pris énormément de valeur. Mais d'abord, pour comprendre un petit peu mieux comment se fixe le prix des fruits et des légumes, on est avec le service des nouvelles du marché. Et le service des nouvelles du marché, c'est un service du ministère de l'Agriculture.
Méga combi, documentaire.
Monsieur Philippe, de l'aubergine, vous aviez
70-75 d'Espagne.
Alors le but du service des nouvelles des marchés, c'est de suivre la filière fruits et légumes du producteur, j'allais dire, jusqu'au consommateur. Donc producteur, on entend des gens qui vendent sur un carreau, des producteurs, donc là sur le marché de Gros de Corba. Après, la seconde étape, on va dire, c'est de l'expédition. Le troisième stade, c'est le stade de Gros. Et la quatrième étape, c'est donc les enquêtes, ce qu'on appelle détail, en grande et moyenne surface. Ce qui fait qu'on a toute la filière. Ce qui nous permet de donner à notre premier client, qui est le ministère de l'Agriculture, une vision objective et neutre des prix pratiqués.
Alors là, on est au marché au Gros de Corba. C'est ici que les producteurs et les coopératives vendent leurs fruits et leurs légumes. Et c'est ici que les détaillants, les restaurateurs, et parfois même les grandes surfaces viennent s'alimenter. Et c'est des acheteurs-vendeurs qui font les intermédiaires entre les deux. Alors c'est des grands hangars avec des quais où les camions peuvent charger, décharger. Et il y a donc une impressionnante valse de palettes, valse de fenouil.
Tu veux écouter ma sœur là ? Denis, au boulot.
Artichaut.
18,24. 18, 1,10€. 24, 85 centimes.
T'as du Castel 13 ?
Non, pas de gros.
Aubergine.
Espagne 80 centimes, Hollande 1,30.
Votre rôle ici, vous, c'est quoi ?
On est vendeur, acheteur-vendeur.
Comment vous fixez les prix ?
Comme on dit, il y a 30 ans, je suis dans le métier, donc on sent le métier. Déjà, on a un prix d'achat. Donc, c'est par rapport à ce prix d'achat qu'on sent le marché et qu'on met un prix derrière. On essaye le plus haut possible, mais c'est rarement très haut. Hein.
Alors vous, en moyenne, vous faites quoi comme marge à peu près ?
C'est autour de 8%, 6%.
Quand on voit des produits qui sont multipliés par 10 entre le producteur et le supermarché, par exemple, qui c'est qui...
En fait, c'est pas nous. C'est souvent derrière. Mais bon, vous savez, la grande distribution, ils ont un mode de fonctionnement qui est différent. Ils achètent rarement sur les marchés comme nous. Ils achètent souvent à la production. Ils ont leur centrale qui font office d'intermédiaire. Et c'est eux, à la limite, qui prennent des marges à tous les étages.
C'est les premiers bergerons là, qui sont arrivés ?
C'est ça,
en calibre A. T'es sur quelle base là ?
On est sur une base de 1,50 à peu près.
Quand on voit quand même que les agriculteurs sont dans des positions difficiles, certains vendent à perte. En ayant cet œil un petit peu au-dessus, cet œil objectif sur tous les prix, comment vous analysez ça ?
C'est difficile à dire. Le seul problème, c'est la phrase qu'on répète souvent entre nous, c'est que les fruits et légumes, ce ne sont pas des boulons. C'est-à-dire que vous avez des produits qui sont appelés à varier très vite, à évoluer très rapidement. Et après, c'est vraiment un marché typique de l'offre et de la demande. Donc si en période normale, vous avez une offre qui est supérieure à la demande, vous pouvez vous retrouver avec des gens qui sont obligés de vendre en dessous de leur prix de revient.
Quel est l'opérateur qui a le plus d'influence sur le prix ?
À mon avis, ça reste quand même les plateformes de grande distribution. Autant avant, le marché de gros était incontournable dans la filière, autant maintenant,
Ils ont été un peu court-circuités par les grandes surfaces qui ont leur propre plateforme de distribution.
Du coup, sur ces plateformes, vous, vous ne contrôlez pas les prix que pratiquent les centrales d'achat ?
Il avait été évoqué à un moment, parce que comme on se rend compte que c'est une grosse partie de la marchandise passe par cette plateforme, il était intéressant d'avoir les retombées de ces gens. Mais bon, je comprends qu'il ne soit pas très facile d'accès. C'est un petit peu, je vais dire, du commerce, donc du secret professionnel.
Du coup, c'est les centrales d'achat qui refusent qu'il y ait la SNM ou d'autres organismes de cotation qui...
En refus, je ne sais pas si on peut parler de refus. Mais bon, après, vous savez comme moi que c'est les centrales d'achat, il y a les ristournes, des choses comme ça. Ça doit être assez difficile d'avoir la vérité vraie, j'allais dire. Ça serait intéressant, ça pourrait être un repère, mais peut-être pas vraiment la vérité, quoi.
Bonjour.
En fait, je voulais savoir si c'était possible de rentrer en contact avec quelqu'un de la centrale d'achat de Carrefour.
C'est dans le cadre d'un documentaire sur...
C'est l'idée, c'est de savoir quel est le chemin que parcourt un fruit avant d'arriver sur les étalages du supermarché.
Auchan s'engage à vous offrir chaque jour.
Bonsoir, Catalifo, bonjour.
Je vous rappelais concernant ma demande pour faire un reportage autour de la centrale d'achat Auchan.
Je n'ai pas pu avoir tous les gens que je voulais, mais les gens que j'ai eus sont un petit peu réticents parce qu'ils ont eu des expériences assez négatives dans le passé sur des reportages un peu fouillés comme ça où on essayait d'expliquer un petit peu la chaîne d'approvisionnement et j'ai essayé un peu plusieurs pistes, mais vu les délais, vu qu'on a déjà transmis ça il y a pas mal de temps, puisque je crois que vous avez appelé il y a pratiquement un mois la première fois.
Hein, ouais, c'est ça, ça fait un mois que j'attends un peu des nouvelles.
Je pense que ça ne fera pas, je suis désolé.
Oui.
Je viens de prendre connaissance de votre mail.
Bien sûr. Ah, c'est concernant Casino.
Oui, avec les abricots.
Voilà.
Je pense que ça va être compliqué.
Eh ben, malgré tout ça, on va quand même essayer de suivre Jojo à la trace. On rappelle, Jojo est un abricot bergeron qui vient de la Drôme. Notre producteur a livré sa production à la coopérative il y a 2 jours. La coopérative l'a triée, l'a calibrée, l'a conditionnée et l'a revendue. Elle l'a revendue soit directement donc aux grandes chaînes de supermarchés, leurs fameuses centrales d'achat dans lesquelles on n'est pas les bienvenus, soit aux grossistes comme ceux du marché au gros de Corba, où on est de retour à la poursuite de Jojo.
Donc je suis Franck de grossiste sur le nouveau marché de Corba. Nous sommes 17 grossistes.
Alors le boulot de grossiste, c'est quoi ?
Le boulot de grossiste est d'acheter la marchandise en Europe, en Amérique, etc. Et d'approvisionner la clientèle de toute la région, enfin nous, sur Lyon, de toute la région Rhône-Alpes.
Alors si on s'intéresse à l'abricot, au bergeron, par exemple ?
Oui, on achète exclusivement l'abricot, donc le bergeron sur la vallée du Rhône.
Alors, moi, je suis Jojo l'abricot qui sort d'une coopérative ici dans la vallée du Rhône. On peut voir que Jojo l'abricot est arrivé ici. Vous l'avez acheté combien ?
On va dire qu'une moyenne depuis 15 jours qu'on a commencé le bergeron sur un 30, un 40.
À qui vous allez pouvoir le vendre ?
Alors abricot, nous avons une clientèle de 30% de détaillants hein, qui font les marchés, 30% de GMS.
GMS,
oui. GMS, donc la grande distribution. Hein. Après, nous avons 20 à 30% aussi de restaurants et collectivités. Et les 10% sont plus des magasins spécialisés.
Vous vendez un petit peu au GMS, mais généralement, le principe des grandes surfaces, c'est qu'elles ont leur centrale d'achat. Comment ça se fait que vous arrivez quand même à rentrer
Alors
dans cette filière ?
Nous, on leur vend à deux conditions. La première, souvent, c'est quand ils ont eu un refus qualitatif. Donc, ils ont besoin de servir leur magasin, donc il faut absolument qu'ils se dépannent. Le marché de gros de Corba est leur seule solution. Et la deuxième, c'est qu'ils ont trop vendu le matin, ils ont un manque quantitatif. Quoi.
Alors si je prends l'exemple de Jojo l'abricot que vous avez acheté à 1,30, une coopérative de la vallée du Rhône, que vous revendez par exemple à Auchan, pour prendre un exemple d'une GMS, à combien vous allez le vendre ?
La GMS, on va tenir compte du transport. Si c'est nous qui livrons la GMS, on va prendre 10 centimes de plus pour le transport, donc on va leur vendre en moyenne entre 1,60 et 1,70.
1,60 à 70 par exemple, et vous le livrez, donc si vous faites le transport par exemple, vous livrez au champ Caluire
Voilà, si on livre à un champ Caluire, ça va être 1,70. Oui.
Mégacombi, reportage.
Alors, je suis maintenant dans le rayon fruits et légumes de champ Caluire, juste à côté de Lyon, à la poursuite de Jojo l'abricot. Alors, pour que ça soit bien clair avec les prix, on rappelle que Jojo a quitté sa Drôme natale il y a une petite semaine maintenant. Le producteur l'a amené à la coopérative à quelques kilomètres de là. Pour ça, le producteur espère toucher au moins 70 centimes du kilo, mais ce n'est pas garanti. La coopérative, elle, a revendu Jojo entre 1€ et 1,30€ le kilo, soit directement à la centrale d'achat d'Auchan, soit un grossiste qui, lui aussi, l'a amené ici à Auchan qu'à lui. Donc en gros, l'entreprise Auchan a acheté Jojo l'abricot entre 1€ et 1,70€. Et on va voir à combien ils le revendent aux consommateurs.
Manuel Carpentier, chef de rayon fruits et légumes à Auchan Calvire. Donc on passe des commandes tous les jours, tous les matins, pour être livré le lendemain. Et on a passé nos commandes ce matin avant 8h30 pour être livré demain matin.
Ok, vous passez vos commandes à qui?
Alors nous, on commande à une centrale d'achat qui regroupe tous les magasins Auchan et qui nous permet d'avoir les meilleures conditions et de faciliter les commandes pour les magasins.
Alors est-ce qu'on peut aller voir les abricots?
On va regarder, mais je pense qu'il doit arriver de la Drôme, notre. Et aujourd'hui, on est sur une variété Paris Bergeron. La base de prix, c'est 2,49.
2,49. Voilà. Alors, j'ai vu, il y a des barquettes aussi de Bergeron.
Est-ce qu'on fait de la... Oui, on fait... Alors, oui, la spécificité qu'on a, on a aussi deux types de produits qu'on travaille sur un abricot. C'est un abricot qu'on appelle abricot mûr à point. Donc, c'est un abricot qu'on prêt à déguster. C'est-à-dire qu'il est... on le mange, il est en barquette et il est prêt à manger tout de suite.
Et celui-là, il est directement mis en barquette par la coopérative. Directement...
Voilà.
Et lui, par contre, il est à 6,14€ le kilo.
Ah oui, celui-là, bah, on paye le fait qu'il soit mûr. Hein, là. De toute façon, dès qu'un produit est conditionné, il est tout de suite plus cher.
Le chiffre d'affaires du rayon fruits et légumes, c'est quelque chose qui compte dans l'ensemble du magasin?
Ça représente, on va dire, entre 6 et 7% du chiffre d'affaires du magasin. Alors, c'est pas énorme, hein, mais c'est quand même déjà important.
Par rapport à la place que ça prend?
Voilà, par rapport à la place que ça prend, c'est quand même important. Ça touche quand même environ 40% des clients. Donc c'est quand même pas négligeable. Hein. Troisièmement, en termes de rentabilité, c'est un rayon quand même qui a une rentabilité relativement intéressante pour le magasin, même si ce n'est pas le rayon qui dégage le plus de bénéfices.
Quel est votre regard sur la filière? On entend souvent que les producteurs sont en grande difficulté, on accuse un peu la grande distribution de faire baisser les prix en fait.
Alors, évidemment, effectivement, on peut pas. La filière agricole, ben, je pense qu'elle est, comme tous, elle est comme dans même, j'allais dire, même dans le commerce, comme partout, il n'y a que les meilleurs qui s'en sortent. Hein. Donc effectivement, ceux qui ont réussi à prendre le virage ben, réussissent. Hein. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gros producteurs en fruits et légumes qui s'en sortent plutôt bien et qui travaillent bien. Ce qui les pénalise le plus, c'est le coût de la main-d'œuvre. Ils ont un métier qui est encore beaucoup assujetti à la main-d'œuvre. Hein, ils ont encore beaucoup de manipulations manuelles. Hein. Donc effectivement, par rapport à d'autres pays européens ou d'autres pays mondialisés, encore pire.
Oui, c'est vrai que la main-d'œuvre...
Pierre Vera, Confédération Paysanne.
Et représente un poste élevé au niveau du prix de revient. Aujourd'hui, quand on a mis ça en avant, voilà, on se dit ben, il faut ramener le coût de production, le coût de la main-d'œuvre au même niveau que les autres pays concurrents. Est-ce que les producteurs, derrière, pour autant, vont s'en sortir? Le coût de la main-d'œuvre, on le diminue, donc il faut amener des productions à un plus bas prix. Ça, la grande distribution, elle sait faire et elle est là, elle va encore mettre la pression un maximum pour faire descendre les prix, quoi. Donc, le problème de salaire est une des raisons pour lesquelles il y a des difficultés, mais il ne faut pas quand même que se cacher derrière son petit doigt avec cela.
Est-ce que ça arrive à la grande distribution de vendre des fruits à perte?
Ah ben, à perte, on n'a pas le droit. Donc, déjà, c'est interdit par la loi, donc c'est très rare.
Ça arrive jamais que sur une campagne d'abricot Bergeron, par exemple, vous perdiez de l'argent?
Non, jamais. Non. On n'est pas là pour perdre de l'argent et on a des coûts on a des coûts derrière nous à payer, puisqu'on doit payer nos équipes, le personnel, l'électricité. Donc effectivement, non, on gagne peut-être pas autant d'argent sur d'autres produits, parce que la saisonnalité, c'est pas le but, mais on essaye aussi de ne pas en perdre.
Aujourd'hui, l'agriculture est un des seuls secteurs d'activité où la vente à perte est autorisée. C'est quand même quelque chose de phénoménal. On a de cesse de nous répéter que le prix, c'est le marché qui décide, uniquement. Il faudrait quand même arrêter de nous prendre pour des idiots, à savoir qu'on n'est pas non plus capable, au niveau de la production des fruits et légumes, se donner quand même un cadre plus rigoureux que ce qui n'existe aujourd'hui, quoi.
Je reprends l'exemple de Jojo l'abricot que j'ai suivi, qui passe de 40 centimes à 4 euros avec finalement deux intermédiaires. On se pose quand même des questions sur où va cet argent.
Oui, où va cet argent? La question, on a eu de cesse d'essayer de la poser à la grande distribution. La grande distribution a toujours trouvé des raisons X ou Y là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, pour autant, on ne voit pas disparaître un grand nombre de grandes enseignes. Par contre, si on faisait le rapport avec la production, il y a une expression qui dit « on ne prend pas un singe à faire, des grimaces ». La grande distribution, on ne va pas lui apprendre à gagner de l'argent. Hein. Sa vocation première, c'est de gagner de l'argent. Après, on travaille les produits, enfin, tout ce qui est commercialisable, pour que ça rapporte un maximum, quoi. Donc après, avec des sociétés écrans et compagnie...
Vous parlez de société écran, c'est le système des centrales d'achat?
Oui, mais bon, moi je ne veux pas polémiquer en permanence sur la grande distribution. Je veux dire, si les pouvoirs publics ont la volonté d'arriver à moraliser les prix, moraliser les actes d'achat, mettre plus de transparence, derrière ça, après, ce n'est pas aux producteurs à faire les enquêtes là-dessus.
Service de prescription, bonjour.
J'appelle régulièrement depuis un mois, en fait. Hein. J'ai envoyé des mails, etc.
Ah bon?
Ouais.
Un instant. J'ai trouvé à ma collègue qui avait suivi votre demande. Je crois qu'elle a toujours pas de retour.
D'accord, mais vu que ça dure depuis le 9 juin, je me dis si Carrefour veut pas communiquer, peut-être c'est mieux de me le dire directement plutôt que je m'évertue à vous relancer tous les 3 jours.
Je suis complètement d'accord avec vous et j'aimerais bien vous dire que c'est non, si vraiment c'est une canne, mais en fait je n'ai pas du tout la réponse et je ne sais pas du tout si.
Mercredi 21 juillet à 16h48.
Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir effectuer le reportage. Merci en tout cas pour votre patience et à très bientôt. Au revoir.
Comment vous expliquez ce refus de communiquer de la part de ces grandes entreprises qui sont pourtant des grandes communicantes habituellement?
Je sais qu'on a essayé de forcer ces portes soi-disant vitrées qui laissent voir la lumière à l'intérieur, sauf que non, c'est très très opaque. Hein. Et ou du moins après, ils ont toujours moyen de se justifier par rapport à ces actes, enfin, à ces côtés de plusieurs étapes au sein même de leur propre chaîne de société qui revend à une autre société qui fait partie de la même boutique et qui à chaque fois, ça fait 50 centimes plus la TVA et tout, où chacun au seul prétexte que chaque société doit pouvoir vivre. Mais en réalité, ça n'amène rien dans ce schéma. Alors moi je pense que la grande distribution aujourd'hui, elle est en position, pour le moment, on va dire, de position forte, mais je crois qu'ils ont néanmoins tout faux, parce que moi je pense que le consommateur, même si on peut considérer que c'est un peu les moutons de Panurge, mais à des moments il faut arrêter quand même de prendre les gens pour des imbéciles, quoi.
Votre attention, s'il
vous plaît. Pourquoi vous achetez plein de fruits et vous achetez pas Jojo l'abricot?
Parce qu'il est trop cher.
Voilà. Alors ici, dans ce monoprix de l'agglomération lyonnaise, l'abricot est à 3,65. C'est un bergeron. Et il est très probable que ce soit Jojo ou un de ses copains, puisqu'il est dans une cagette de la marque de la coopérative qu'on a visitée.
J'en ai payé des beaux, moi, 2,50 au marché. Alors des vraiment beaux, hein, sans pas tallés, pas abîmés, impec.
Et alors 3,65, à votre avis,
à mon avis, c'est trop cher.
Comme ça, je trouve ça cher, ouais.
À votre avis, le producteur qui l'a acheté, il a touché combien?
À mon avis, il ne doit pas toucher grand-chose et je pense qu'il doit y avoir tout un tas d'intermédiaires entre les deux. Je ne serais pas étonné qu'il touche 10%.
10%, ouais, c'est 36 centimes, ça ferait.
Ça ne m'étonnerait pas, ouais.
Alors vous n'êtes pas loin, parce que la saison dernière, ils ont vendu à 40 centimes le kilo, en tout cas ceux que j'ai suivis.
Ouais.
Mais par contre, il n'y a pas tant d'intermédiaires que ça, dans le sens où la centrale d'achat Monoprix achète directement.
Ouais.
À la coopérative de paysans. Donc là, ils vendent à 3,65.
90%.
A priori, ils l'ont acheté à 1,30, 1,40.
Ouais, d'accord. Il faudrait que j'en goûte un, tiens. Pour le prix.
Ah, alors on va goûter. Vous allez manger, Jojo l'abricot.
Il n'y a pas beaucoup de goût, hein, faut dire.
Non?
Non, pas beaucoup de goût. Non, c'est pas terrible. Bon, enfin, ça sent l'abricot quand même. Allez, merci.
Je vous remercie. Au revoir.
Un fruit,
Pierre Vera, Confédération Paysanne.
Obligé à le ramasser trop loin de maturité, c'est pourtant des choses, c'est les exemples récurrents qu'on a de cesse de citer. Mais ça, ce schéma-là, on va dire que les circuits de commercialisation continuent des fois encore à imposer tout ce trajet du produit, du fruit, jusqu'au consommateur. Par exemple, au niveau de l'abricot, c'était effectivement, il faut produire un fruit qui va cheminer un peu longuement dans le stade de la commercialisation. Donc il faut que une fois qu'il est cueilli, il est encore capacité à résister dans le temps et à continuer d'évoluer sainement dans le temps. Ça, c'est aller contre la nature, contre le bon sens paysan, quoi. Aujourd'hui, moi-même, des fois, je m'interroge sur le métier que je fais, sur la manière dont il faut produire. Depuis les années 50, où il y a eu le grand boom sur l'agriculture, il y a eu des choses qui sont... où on n'a pas suivi le rythme de la terre à des moments. Et donc, il ne faut pas s'inscrire systématiquement en faux contre le progrès. Mais aujourd'hui, on est allé trop loin dans certains schémas. La première des choses, c'est quand on est paysan, c'est de se dire, bon, ben voilà, il faut accepter déjà ce que la nature veut bien nous donner. Ça relève d'une certaine éthique, après. Enfin, je veux dire, on a quand même, une fois qu'on a fini de récolter, et que si on a amené une belle récolte, sans regarder la rémunération, mais il y a au moins cette satisfaction derrière de se dire que ce qu'on a fait, ça a été un travail bien fait. Après, reste toujours la problématique de la rémunération derrière.
Méga Combi, documentaire.
Eh oui, avec ça, ma petite dame.
Alors, on a suivi Jojo l'abricot.
Vous l'avez ?
Depuis son arbre de la vallée du Rhône jusqu'au supermarché à Lyon.
Il vous resterait peut-être une salade ?
Non, j'ai plus de salade.
Mais
salade.
Il existe aussi une autre manière de vendre des fruits et donc une autre manière d'en acheter.
C'est très bien.
C'est l'hôpital, maraîcher fruitier. Je domicile à Brindhoff, c'est à 15 km du centre de Lyon.
Donc légumes de saison, fruits de saison.
Voilà.
C'est une entreprise familiale, vous avez des ouvriers ?
Non, j'ai quelques... Des fois, l'été, on a des saisonniers ou des stagiaires des écoles.
Et alors, vous vendez tous vos légumes sur les marchés ?
Oui.
Comment vous avez fait ce choix de faire de la vente directe plutôt que de passer par...
Parce que, bon, je viens déjà d'un milieu agricole où on faisait déjà de la vente directe. Alors, c'est facile de se rendre compte quand même qu'en vente directe, c'est plus facile qu'en coopérative.
Pourquoi c'est
plus facile ? Disons qu'on a un point d'astreinte avec les produits, parce qu'il faut toujours des produits impeccables en coopérative qu'avec le détail. Bon, on explique aux clients et puis... On arrive à lui faire comprendre que c'est pas toujours simple de faire du prix de toujours beau et bon. Donc voilà, c'est plus facile à vendre des fruits qui sont un petit peu talés ou trucs comme ça qu'en coopérative, c'est même pas la peine d'en parler.
Alors moi j'ai suivi Jojo l'abricot, qui est un abricot bergeron de la Drôme, qui est dans une filière plus longue que des supermarchés. En gros, moi j'ai rencontré un producteur qui me dit que produire son abricot, ça lui coûte environ 70-1 € le kilo. Il le donne à une coopérative qui le vend en gros à 1,20€, 1,40€ au supermarché. Et en supermarché, ce même abricot se retrouve à des prix entre 2,50€ et jusqu'à 7€ le kilo. Est-ce que vous faites aussi un petit peu des abricots ? Vous pouvez me décrire déjà combien ça vous coûte et combien vous le vendez ?
Alors, combien ça nous coûte, c'est difficile à dire parce que bon, on a moins de main d'œuvre qu'eux, parce qu'on éclaircit moins, on traite moins souvent. Alors donc, on a un coût de production un petit peu moins inférieur à eux.
C'est-à-dire un peu, vous, un kilo d'abricot, vous l'estimez à combien ? Une fourchette à peu près ?
50 centimes du kilo à peu près. Quoi.
Donc c'est un peu moins cher que Jojo, moi, l'abricot que j'ai suivi. Sur le marché, il est à combien ?
Entre 2 et 2,50.
Entre 2 et 2,50, donc il est moins cher qu'en supermarché.
Et il est plus cher qu'en coopérative.
Il est plus cher qu'en coopérative.
Voilà, tout le monde y retrouve son compte. Et le client aussi, parce que bon, le client, il paye moins cher aussi. Alors donc...
Mais en tout cas, vous vendez jamais à perte des abricots, par exemple ?
En principe, non. Non. Il y a des fois, on tombe sur nos pieds, mais bon, on vend à perte, non.
Alors, vous faites des horaires impossibles, parce que vous êtes pratiquement tous les jours ici sur le marché à la Croix-Rousse.
6h, 9h.
6h, 21h.
À peu près, oui.
Vous arrivez à vous en tirer financièrement ?
On a un revenu, on est monté en société avec mon fils, on a un revenu, moi, de 1 500 € et lui, de 1 200 € par mois. C'est pas énorme, mais enfin bon, on se nourrit sur la société. Faut pas dire qu'on ne vit pas avec ce qu'on fait, mais enfin bon, il faut pas regarder les heures. Mais autrement, si, on vit bien, mais bon, il faut se donner de la peine et puis aimer ce qu'on fait, hein, c'est tout. Hein. Si j'ai fait ce métier, c'est pour ça. Hein. Parce que j'ai un contact avec les clients, bon, je leur fais connaître mon produit. Maintenant, si je fais des histoires dessus, que je fais des bêtises, bon, c'est à moi de corriger, hein, de toute façon, mais c'est le client qui me le dit. Parce que bon, vous venez à la coopérative, vous savez plus où ça a passé, vous savez plus ce que c'est vendu. Ils vous disent ce qu'ils veulent, là, de toute façon. Bon, au détail, comment ça se vend, personne n'en sait rien. Bon, c'est plus ou moins acceptable. Donc, c'est pour ça que moi, je fais ma vente directe, tant que je peux. Maintenant, quand on n'aura plus le droit de le faire, on verra. Enfin, pour l'instant, je pense qu'on en est encore pas là.
Le cinéma est plus de guerre, plus de flics et plus de soldats que les humains à part entière. Plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire. Rien que des gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec deux jambes et puis deux bras, 32 dents et des choses à faire. Pourquoi pas se prendre dans les bras? Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures et des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, je n'aurais plus besoin que dalle.
Radio Canu présente.
Suite à une tentative de coup d'état avortée à la tête de l'armée sandiniste de libération des monts du Lyonnais, le sous-commandant Marco a été exilé par le maréchal Valls, qui l'a condamné à errer dans le labyrinthe européen.
Le sous-commandant Marco à Bruxelles!
Le sous-commandant Marco ne pourra s'en sortir qu'en dénichant une carte au trésor, la carte de la justice sociale.
Une des dimensions qui complique la sortie du labyrinthe est que ses relations avec sa périphérie sont elles-mêmes labyrinthiques. C'est très contagieux. Chaque pays européen plonge comme une mangrove sa myriade de lianes dans les entrailles de ses voisins, où elle se noue en un inextricable maillage de diplomatie, d'affairisme, d'universalisme prétentiaire, de nostalgie coloniale, de solidarité et de respect aussi, parfois. Particulièrement en Afrique, si riche de sous-sol, si faible dans ses structures sociales et politiques, bousillée par la présence européenne des siècles passés. L'Union européenne comme institution est le reflet de cette mangrove qui finit par s'étrangler elle-même à force de jeter ses lianes à vide dans toutes les directions. Khalid habitait au deuxième étage quand nous étions enfants, moi au quatrième. Son père était grutier, l'aristocratie ouvrière, une famille marocaine. Khalid était fort, bagarreur, drôle. Lui et ma sœur s'entendaient encore mieux que lui et moi. À travers lui, c'est le Maroc qui brille en lettres de feu dans mon âme d'enfant. En lettres de feu et de sang. Le roi n'avait pas l'air bien commode. Aussi, je me réjouissais quand le fils du roi fut devenu roi à son tour et qu'il nomma un ancien opposant socialiste au poste de premier ministre, un monsieur Youssoufi. La première chose que fit monsieur Youssoufi fut de chasser les bateaux-usines européens pour constituer une flotte nationalisée. Après tout, le poisson était pêché au Maroc, mais le gros de sa valeur ajoutée était européen via sa transformation dans les bateaux-usines. Autant en faire un sujet de richesse qui permettrait des politiques de justice sociale. Devant la menace, l'Europe, qui verse pourtant des aides au développement au Maroc, a fait valoir à M. Youssoufi que son pays n'était pas autosuffisant en blé et qu'il ne fallait pas commettre d'erreur. M. Youssoufi a dû renoncer à ses prétentions ridicules à faire profiter les Marocains des richesses de leur pays. Plus globalement, plus dramatique et sans méchanceté, la politique agricole commune bouleverse en profondeur les continents pauvres. Elle consiste à distribuer des aides publiques pour garantir un niveau minimum de revenus aux agriculteurs, l'autosuffisance alimentaire de l'Europe et une stabilité des prix. Elle pèse pour 43% du budget total de l'Europe, soit 55 milliards d'euros, dont 11 milliards pour la France. Près de la moitié de l'Union européenne est faite d'aides agricoles. C'est énorme. Cette aide représente un dumping et permet une surproduction qui se déverse à prix artificiel dans les pays pauvres, dont l'agriculture vivrière ne peut pas rivaliser. Le milliard de paysans du monde est réduit à la misère et fuit les campagnes pour se déverser dans les bidonvilles des mégapoles. Toute l'organisation sociale des pays concernés s'en trouve bouleversée. Ainsi, les Européens financent par leurs impôts la désorganisation du monde, notamment de l'Afrique, au motif de leur sécurité alimentaire. Combien de politiques plus heureuses pourraient être développées avec ces 55 milliards d'euros? Je m'en offusquais auprès de Fabien, un grand gaillard très beau, excellent joueur de rugby, berger dans le Royan sur les contreforts humides du Vercors. Fabien est aussi une personnalité sage et mesurée. Il gagne 1000 euros par mois, travaille 12 heures par jour, ne connaît pas les week-ends et prend une semaine de congé par an. Un agneau lui coûte 12 euros le kilo à produire. L'agneau est bon, il gambade dans la campagne. Les Néo-Zélandais élèvent des agneaux dans des conditions dégueulasses de fermes gigantesques parce qu'ils vendent surtout la laine. La viande n'est qu'un produit dérivé, chargé de cochonneries, qu'ils vendent à 3 euros le kilo. Sans la politique agricole commune, nous n'aurions que de l'agneau néo-zélandais. C'est-à-dire plus de paysans et une nourriture toxique. La solution n'est donc pas simple, mais ce qui est impressionnant, c'est l'absence de débat sur ces enjeux. 43% du budget européen, la désorganisation du monde, le choix de société sur l'alimentation, sur la ruralité, et personne n'en parle. Nous n'avons aucune chance de sortir du labyrinthe si nous ne prenons pas la peine d'ouvrir les yeux sur les murs que nous contribuons à façonner en toute inconscience.
Le sous-commandant Marco, perdu dans le labyrinthe européen, à suivre tous les mercredis dans la méga-combi.
Radio Canu.
On m'a chargé de vous dire que...
Oui ?
Ça va pas.
Quoi, ça va pas ?
Méga-combi, c'est fini.
Ah, ça va pas, il y en a...
La prochaine méga-combi, c'est mercredi.
Mais ça va aller.
Ah non, ça va pas aller.
Dans un instant, c'est les infos.
Ah.
Ou alors ça va, mais ça va mal aller.
Ça va...
Alors l'apéro.
Ah oui, ça va.
Le bédo.
Ça va pas du tout, ça.
Mais un dernier petit mot.
Bon, bah alors, bah je vais leur dire que ça va aller.
Ça va.
Je leur dis ça va aller.
Méga-combi, c'est fini.